I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand on est immobile et qu'il n'y a pas de vent, là, effectivement, il y a un silence très, très profond, très plat, très blanc, qui est assez surprenant. Ouais. Je m'appelle Mathieu Torder, j'ai 28 ans et ma profession, c'est une profession particulière. Je dis que je suis un aventurier, mais ça veut dire que je fais des aventures, mais que j'écris aussi des livres et que je fais aussi des films et des conférences.
Le musée des sons.
Le
musée des sons. Bonjour et bienvenue dans le musée des sons, le seul ouvert en ce moment. Le podcast d'interview qui ne peut que s'écouter puisque les réponses, ce sont des bruits. En ce moment, on aurait bien envie de partir à l'autre bout du monde pour oublier la morosité ambiante, mais comme les frontières sont fermées, un des seuls moyens de voyager, c'est les podcasts.
Partir à l'aventure et découvrir de nouveaux pays, c'est découvrir plein de nouveaux sons et donner une nouvelle importance aux sons du quotidien qui nous manquent tout d'un coup. Mais comment garder des capsules sonores des souvenirs de voyage ? Les bruits sont-ils pareils partout dans le monde ?
Mathieu Torder est aventurier. Depuis sa première expédition, un tour du monde en 4L avec son meilleur ami, il a parcouru le globe à pied, à vélo, en bateau ou à ski. Il a couru un marathon en Corée du Nord et il est même rentré dans le Guinness Book des records. C'est le premier Français et le plus jeune explorateur à avoir rallié le pôle Sud en solitaire. Lui qui passe sans souci du brouhaha des routes en Inde au silence complet de l'Antarctique, il nous a fait écouter les sons de sa vie, ceux de l'aventure et ceux du retour au pays.
Aujourd'hui, on parle aventure moderne et on reçoit des cartes postales sonores. Bienvenue dans le musée des sons de Mathieu Torder.
Après la fin de mes études, je me suis lancé dans différentes expéditions et il se trouve que depuis que j'ai commencé ça, je n'ai fait que ça. Ça fait 10 ans, moi, que je pars à l'aventure. Je ne suis pas un spécialiste d'une région en particulier. Moi, j'ai fait pas mal d'expéditions en vélo, en 4L, en kayak, à pied, en stop. J'ai un peu multiplié les moyens de transport et en fait, je m'adaptais en fonction de la géographie. Par exemple, quand j'ai choisi de m'intéresser à la Seine, bah, c'est cette partie-là que j'ai descendue en kayak. Quand j'ai choisi de traverser une partie du désert du Sahara, je l'ai fait une fois à pied, une fois en vélo électrique. Quand je suis allé au pôle Sud, j'y suis allé à ski. Enfin, je m'adapte en fonction de la géographie. Je suis plutôt attiré par l'image et donc c'est vrai que j'ai commencé à faire des photos dans mes voyages et que je continue à en faire et que j'aime beaucoup ça. Et puis après à filmer aussi pour faire des documentaires. Donc par définition quand tu filmes t'as des sons. Je me suis jamais baladé avec un micro pour prendre des sons. En tout cas moi j'ai un rapport au son qui est un petit peu particulier peut-être parce que à l'âge de 6 ans j'ai une maladie à l'oreille gauche qui m'a rendu sourd et maintenant je suis toujours sourd de 70% de l'oreille gauche. Ça ne m'handicape pas du tout dans la vie normale. Mais c'est vrai que y a peut-être des sons auxquels je suis moins sensible ou peut-être que j'ai appris à être un petit peu plus attentif à mon entourage ou à mon environnement parce qu'il y a peut-être des choses que je vois moins venir. J'ai peut-être un rapport au son un peu différent. Ce qui est sûr, c'est quand je revois des images, par exemple dans mon périple en Antarctique, là j'étais en train d'écrire justement les dernières pages du récit que je fais sur cette aventure-là. Quand je revois des images, tout de suite, moi, des sons me reviennent, rien qu'en regardant la glace, rien qu'en regardant la tente, parce que c'est des sons qui sont pas habituels, qui sont particuliers et qu'on a que là-bas ou que dans ces conditions ou que dans cet environnement. Le fait de parler seul, je suis pas sûr que ce soit lié au silence. Je pense que c'est plutôt lié au fait d'être seul sur une durée prolongée. On parle seul. Oui, j'ai parlé tout seul, mais j'ai pas nourri une conversation avec moi-même très longue. Je m'encourageais comme un joueur de tennis sur un court, quoi, en me disant allez Mathieu, on va monter la tente. Allez bon. Ça, c'était une bonne journée. Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Enfin, des petites choses comme ça, rien de bien méchant. Et je crois que le fait de s'encourager, de se parler, c'est une façon de rendre l'expérience un peu réelle, de s'inscrire vraiment dans une forme de réalité, de rester vivant tout simplement. Et je crois que si on intériorise tout, bah, c'est là peut-être qu'on peut avoir des troubles un peu de psychologiques. Mais je crois que c'est une manière assez saine en fait d'exprimer les sentiments et les choses qu'on a sur le cœur. Donc le fait de s'encourager, de se parler soi-même, c'était quelque chose d'assez normal pour moi. Après, le silence dans les déserts, on a ce concept de se dire qu'en fait c'est très très silencieux. Et c'est vrai, il y a des moments qui sont extrêmement silencieux, mais c'est pas la majorité du temps. En Antarctique, pour prendre cet exemple, en fait c'était un environnement qui était très sonore, qui était très bruyant. Après, moi, j'ai écouté pas mal de musique, pas mal de podcasts là-bas. Parce que, tout simplement, je pense que, ouais, peut-être que le son d'une voix me manquait. L'Antarctique, c'est un continent qui est hyper stérile, qui est tout blanc. Les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent. Il fait évidemment très froid. Il y a très peu d'odeurs, voire pas du tout, parce qu'il fait moins de 0 degré en permanence. Il y a très peu de sons qu'on connaît à la maison. Et du coup, le fait d'être exposé à cet environnement-là, je crois que, ouais, j'avais besoin de me rappeler la maison avec des sonorités. Et donc, du coup, avec de la musique et des podcasts. J'ai effectivement eu un enregistrement à écouter. Et c'était mes copains qui s'étaient réunis un vendredi soir, à mon insu, dans un appart à Paris, pour simuler un peu un studio de radio. Donc on était un peu comme ici, dans un studio avec un micro. Et il y avait un animateur qui faisait venir des invités au fur et à mesure. Et il se trouve que ces invités, c'était à chaque fois un copain en question. Et puis ces discussions... parfois un peu philosophique, parfois complètement délirante, et puis entre deux il mettait de la musique et donc il lançait un album, et puis là j'avais la musique qui démarrait dans les oreilles. Donc ça, j'en avais 8 heures. Et ma sœur aussi qui me faisait une contrepétrie par jour, donc elle s'était enregistrée ou une blague, et donc j'avais une blague à écouter tous les jours pendant toute mon expédition. Mes parents qui me lisaient des blagues aussi, des blagues de des proches, et donc ils faisaient la lecture en s'enregistrant et je pouvais écouter ça. Ouais, donc j'avais plein d'enregistrements, c'était assez chouette.
Le musée des sons.
C'était sous.
Le musée des sons.
Allô ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je te réveille ?
Le premier son de ma journée, moi je me réveille avec la radio, pour la préciser, c'est France Inter qui me réveille. Sinon, j'ai hésité avec le son de ma Bialetti, je sais pas comment on appelle ça, le percolateur ou la machine à café quoi, finalement. Donc le bruit de cette machine à café. Voilà, ça ce serait le premier son de ma journée. Le son d'une mauvaise idée. Je dirais une voile qui faseille dans le vent. C'est-à-dire que... Je pense à ça parce que quand j'ai traversé l'Atlantique à la voile, je savais pas trop naviguer. J'étais pas tout seul sur le bateau, heureusement. Mais on est responsable, en fait, sur un bateau, du bateau, en se divisant du temps. On appelle ça des quarts, prendre des quarts. Et à un moment, je prenais mon quart et il se trouve que la voile s'est déréglée où il y a une écoute qui est donc la corde pour les novices qui tient la voile qui s'est détachée. Et donc là, la voile, elle s'est mise à battre dans tous les sens. Et moi, j'avoue que je savais pas exactement comment m'y prendre pour rectifier le tir et qu'il fallait que j'aille demander au skipper de m'aider. Mais je me souviens que j'ai reçu une espèce d'angoisse parce que j'étais responsable du bateau. Et donc, je dirais, ouais, le son de mauvaise idée, ça pourrait ressembler au bruit d'une voile qui devient folle dans le vent. Le son de mon lieu de travail. Si je prends le son de mon lieu de travail chez moi, je dirais que c'est le son d'un frigo qui est cassé, parce que mon frigo est cassé. Et le bruit du gaz dans le frigo, il me semble, fait du bruit par intermittence. Donc ça me fait penser au fait qu'il faille que je change mon frigo, que je le répare. Un son de mon enfance qui n'existe plus. Quand j'étais petit, je jouais avec une Game Boy sur laquelle j'avais un jeu qui s'appelait Tetris. Et c'était des petites disquettes comme ça qu'on mettait dans la Game Boy. Et il y avait une musique assez particulière de Tetris. Je saurais pas la chanter. Une musique très très électronique. Et ouais, c'est des bons souvenirs. C'est mon enfance. La voix médiatique qui a bercé mon enfance. Alors, il n'y a pas de voix qui ont particulièrement bercé mon enfance d'une manière très précise, mais il y en a notamment une, moi, dont je me souviens et que j'entends encore, parce que cette personne est toujours active dans la sphère médiatique, c'est Nelson Montfort.
Quel succès ! Vous avez la joue toute rouge, là, Pierre Angrois, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Quand on était jeunes, on n'avait pas beaucoup l'autorisation de regarder la télé, mais Roland Garros et les JO, on avait le droit. Et donc, il y avait Nelson Montfort qui, forcément, a marqué toute une génération, qui m'amusait beaucoup, surtout quand il multipliait les langues, qui switchait de l'espagnol à l'italien, au français, à l'allemand, à l'anglais, c'est toujours très très drôle.
Happy to be here.
Thank you.
Et donc ouais, je dirais Nelson Montfort. Les sons du désert. C'est le son du vent, parce que dans les déserts, par définition, il y a pas grand chose. Il y a ces grandes plaines ou ces grands espaces qui font que voilà, le vent a une emprise assez importante, et donc ce qui fait du bruit, c'est vraiment ça, quoi. C'est le vent qui siffle, c'est le vent qui bat les vagues, et il a un bruit qui est en fonction de sa force, qui est tout le temps différent, quoi. Souvent, c'est une petite brise, soit c'est une rafale, soit c'est une tempête. Pour moi, j'associe énormément les déserts avec le vent.
Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan?
J'ai ma chaîne qui a sauté.
Le son de ma première aventure. Ma première aventure, elle était à vélo. Donc je dirais que ce serait le son d'un dérailleur ou d'un bruit de roue, d'un roulement de vélo. Je l'associerais beaucoup au vélo. J'étais parti juste après mon bac à l'âge de 19 ans, traverser l'Europe à vélo. C'était ma première vraie aventure. Et si je pense à ça, c'est que j'ai eu des galères avec mon dérailleur. Mais je dirais que ce serait le bruit d'un vélo. Le son de l'Antarctique, ça serait pour moi le bruit des skis sur la glace, tout simplement. L'Antarctique, c'est un continent qui est recouvert à 99% de glace et de neige. Et quand on est au pôle sud, on a 3 km d'épaisseur de glace sous les pieds. Et en fait, c'est pas de la neige qui est toute molle. Enfin, parfois elle est molle, mais souvent elle est sculptée par le vent, elle est dure, elle est compacte. Et du coup, les skis, ils entaillent cette glace et ils font toujours une sonorité un peu aiguë, un peu rauque. Ils viennent vraiment entailler la glace, donc ça a un bruit un peu aigu et qui vient frotter cette glace-là. Et donc moi, c'était parfois le seul bruit que j'entendais toute la journée durant quand j'écoutais pas de musique ou de podcast ou qu'il n'y avait pas trop de vent. Le son d'une grosse galère en voyage. On pourrait imaginer un bureau de douane où il y a des gens qui tapent sur des claviers d'ordi, qui rangent des dossiers. Pense à ça, parce que les plus grosses galères dans les voyages un peu itinérants, pour moi, c'était avec les douanes, quoi, avec les douaniers qui font toujours des excès de zèle et qui, forcément, sont en position un petit peu de force.
Tamponné. Double tamponné.
Ouais, je dirais le bruit d'un bureau fourmiliant d'agents des douanes. Le son du retour à la maison. La maison, pour moi, c'est la Normandie, c'est la maison de mes parents, ma maison familiale dans laquelle j'ai grandi. Et dans cette maison-là, il y a un jardin. Et avant d'arriver à la maison, il y a une allée en gravier, en cailloux. Le son qui me ferait penser à la maison serait vraiment ça. Ce serait le son d'une voiture en fait qui roule sur ses graviers. Et ça me fait penser à ça parce que après un long voyage où on retourne un petit peu voir les parents ou en Normandie, quand j'entends ce son-là, je fais ah, ça y est, je suis de retour à la maison, je suis de retour chez moi. Donc les graviers. Les sons d'un marathon en Corée du Nord. J'ai couru plusieurs marathons dans ma vie et
le plus bizarre, le plus curieux. Le plus rapide aussi. Mon marathon le plus rapide, il était en Corée du Nord. Pourquoi?
Parce que en Corée du Nord, on n'a pas le droit de faire plus de 4 heures. C'est pas une blague. On n'a pas le droit de courir en plus de 4 heures le marathon, sinon on est éliminé. On n'est pas exécuté, mais on est éliminé. En fait, la raison pour laquelle, en tout cas, à l'époque où je l'avais fait, je crois que c'était en 2016, il me semble, on n'a pas le droit de faire en plus de 4 heures parce que, comme ils veulent contrôler l'afflux de touristes étrangers, enfin, d'étrangers dans la ville ou dans la compétition, ils veulent pas qu'il y ait des gens qui soient perdus en 5 heures, 6 heures. Donc, on a 4 heures pour finir. Ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on courait avec les Nord-Coréens. Donc, il y avait quand même cette espèce d'échange avec une population qui est vraiment à des années-lumière de nous et qui nous regardaient, nous les étrangers, avec pas mal de curiosité, mais aussi un petit peu d'effroi. Enfin, c'était assez particulier, mais pendant la compétition, il y avait quand même cette solidarité un petit peu, ces regards qu'on peut avoir qu'avec le sport, quoi. Je me souviens, on se tapait dans le dos, on s'échangeait des bouteilles d'eau. Enfin, c'était une expérience assez particulière, mais assez forte finalement. Et le bruit de ce marathon-là, il y avait du monde sur le bord des routes qui nous regardait, mais c'était pas aussi festif que les marathons qu'on peut avoir à Paris ou dans d'autres pays. Il y avait pas de fanfare et puis il y avait cette arrivée dans le stade parce que l'arrivée était dans le stade à Pyongyang et là il y avait c'était plein, mais d'un autre côté c'était un stade un peu silencieux. Il y avait pas de grands applaudissements, il y avait pas non plus de grandes rumeurs qu'on peut avoir comme dans les stades de foot ou je sais pas quoi. C'était une arrivée un peu silencieuse, un peu curieuse, quoi. Donc c'était un peu lunaire.
Le café est une oasis. On laisse en entrant beaucoup des soucis que l'on a. Frais en été, chaud en hiver, c'est le puits sur la route monotone.
Un son de la France qui me manque quand je suis loin, c'est l'ambiance qu'on peut avoir dans les cafés français ou parisiens. cette espèce d'énergie qu'on peut avoir le matin dans une rue passante parisienne avec la machine à café qui fait vachement de bruit, pour le coup qui fait pas le même bruit que chez moi, ce bruit un peu désagréable d'ailleurs, hein, des grosses machines à café qui hurlent quand ils font, je sais pas, chauffer leur lait ou je sais pas quoi, mais ça fait souvent beaucoup de bruit. Mais ça, c'est des sonorités qui, quand je reviens à Paris ou en France et que je me pose à la terrasse d'un café, qui me dit « Ah, ça, je suis bien rentré et ça m'avait un peu manqué. »
1130 départs de feu en 24 heures et le combat paraît inégal, même si l'armée brésilienne a été appelée en renfort.
Un son qui me fait pleurer. Je trouve que le bruit d'une forêt qui brûle, c'est extrêmement triste. Autant le bruit d'un feu de cheminée qui crépite et tout, ça c'est hyper chaleureux, hyper plaisant, mais le bruit d'une forêt, tu vois, qui brûle dans son entièreté avec ce nuage et tout, ça fait peur et ça rend triste, je trouve. Un son qui me rend fier, j'en ai pas en particulier, mais quand je suis arrivé au pôle sud, il y a une base scientifique et devant la base scientifique, il y a un pylône qui symbolise, qui matérialise le pôle sud, et c'est un pylône en bambou sur lequel est sertie une espèce de sphère métallique de la taille peut-être d'un ballon de foot, peut-être un peu plus petit. Et cette sphère, elle est en métal, on peut se voir dedans. Je me souviens avoir tapé sur cette sphère métallique avec mes mains et ça résonnait un petit peu. Et ben j'étais fier parce que ouais, j'étais arrivé au bout de mon rêve et au bout d'une longue marche de 51 jours. Un son qui a marqué ma vie, il y a le son de la 4L, le bruit du moteur de la 4L, moi, qui a marqué ma vie, peut-être qui a influencé, enfin ce projet plutôt a influencé ma vie, parce que ça, c'était ma plus grande aventure. Je l'ai faite avec cet ami Nicolas quand on avait l'âge de 21 ans tous les deux. C'était un tour du monde d'un an. Et ouais, depuis ce voyage-là, on en a fait un film, on en a fait un livre, alors que c'était pas des choses qui étaient prévues au départ. Mais en tout cas, cette aventure, moi, elle m'a donné envie d'en faire un métier. Et c'est pour ça que c'est mon aventure la plus marquante. Et ouais, je l'associe beaucoup à ce bruit de 4L, quoi, parce qu'on l'a démarré tous les jours, elle tombait en panne, il fallait apprendre à composer avec cette voiture parfois un peu capricieuse. Et ouais, le bruit du moteur, le bruit de l'échappement, le bruit de cette voiture, peut-être celui que j'associerais au son qui a marqué ma vie. Un son de mon pays préféré. Pour moi, les voyages, les pays, ils sont très liés à un contexte, à un moment de sa vie, à des rencontres. Donc c'est difficile de hiérarchiser ou de catégoriser des pays, à mon sens. Mais un pays qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'était le Pakistan. J'étais parti de Kashgar, en Chine, pour rallier Islamabad au Pakistan sur la plus haute route du monde, ou en tout cas l'une des plus hautes routes du monde, qui s'appelle la Karakoram Highway. J'avais fait ça à vélo. Et au Pakistan, dans le nord du Pakistan, il y a plein de montagnes. On appelle ça la chaîne du Karakoram. C'est très beau, il y a des vues incroyables. Et il y a des petites mosquées un petit peu partout, avec ces minarets qui sortent de terre. Et moi, je dormais dans des petits villages. Parfois, je campais. Parfois, j'ai été hébergé. Mais ouais, moi, je me souviens très bien de ces muezzines qui chantaient, tu vois, régulièrement, en fonction du rite religieux musulman. Et ouais, ça a accompagné tous mes tours de roue au Pakistan. Donc je dirais le chant d'un muezzin. Le son a envoyé dans l'espace pour leur présenter l'humanité. Je dirais le son d'un livre qu'on feuilletterait. Parce que si on voulait présenter l'humanité à une autre forme de vie intelligente qui serait capable de décoder ce bruit-là, c'est dire que voilà, nous on a construit notre humanité avec pas des livres, mais avec des mots, avec des phrases, et que je sais pas, je me dirais que dans le livre symboliserait peut-être bien justement notre civilisation. Pour moi, c'est un objet de connaissance, de partage, voilà. Et le son, pour finir un podcast en beauté, moi je penserais au morceau du groupe de musique qui s'appelle Prodigy. La chanson s'appelle Stand Up. Pour moi, c'est une chanson de victoire, de joie, de bonne humeur, de départ en vacances ou en voyage. Et je pense qu'elle est assez adaptée pour finir un podcast.